Dans Jean 2, Jésus emploie une expression totalement inusitée dans notre français québécois. Il dit « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Qu'y a-t-il entre moi et toi? C'est une expression typiquement sémitique, absente de notre langage courant, et on la retrouve à plusieurs reprises dans les Écritures. Cette expression a toujours une connotation négative. Elle manifeste une irritation de la part de la personne qui l'énonce à l'égard de quelqu'un d'autre. La question qui se pose alors, c'est pourquoi Jésus était-il irrité par la demande de sa mère? Certains ont avancé parce qu'elle avait voulu que Jésus fasse du vin alcoolisé. Regardons plutôt le contexte pour la réponse. Lisons à partir du verset 1 de l'Évangile de Jean, chapitre 2, jusqu'au verset 11. Trois jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là six vases de pierre destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun deux ou trois mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-le à l'ordonnateur du repas. » Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux. Et il lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Fin de la citation. Jésus nous fournit la réponse quand il dit, « Mon heure n'est pas encore venue. » C'est ça la raison pour laquelle Jésus était irrité par rapport à sa mère. Elle essayait de le provoquer. Jésus disait de son côté, « Non, mon heure n'est pas encore venue. » Non pas dans le sens de commencer son ministère, parce que c'est ça qu'il avait déjà fait dès son retour des 40 jours dans le désert. Il avait déjà des disciples avec lui aussi, on lit plutôt. Son heure n'était pas venue dans le sens qu'il n'avait pas encore manifesté la puissance de Dieu dans ses actions. Le verset 11 nous apprend que ce fut son premier miracle quand il a transformé l'eau en jus de raisin non fermenté. C'est ainsi qu'on désignait le meilleur vin, selon l'historien romain Pline qui a vécu à cette époque. Le texte parle de bon vin. Il devait donc être un peu fermenté parce qu'il avait suffi à enivrer les convives. Mais celui que Jésus venait de créer n'avait pas eu le temps de fermenter. Alors Jésus n'a pas encouragé l'ivrognerie en changeant ses 470 litres d'eau. Mais ce serait vraiment contraire aux Écritures si c'était le cas. Parce qu'on lit dans Éphésiens 5, 17, 18, « C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. » Fin de la citation. Jésus n'était assurément pas inconsidéré ou insensé, parce que le mot en grec traduit dans ce texte par « inconsidéré »,« aphron », est traduit dans Luc 11, 40 et 12, 10 par le mot insensé. Donc, Jésus n'est pas un insensé pour transformer de l'eau en vin alcoolisé puis encore enivrer plus les gens qui étaient déjà enivrés. Jésus n'a pas contribué à empirer encore plus leur état d'ébriété. Habacuc 2, 15 dit « Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verse ton outre et qui l'enivre. » Donc, le malheur aurait été sur Jésus s'il aurait continué à les enivrer encore plus. C'est encore une raison supplémentaire pour montrer que le vin que Jésus a fait n'était pas alcoolisé. Finalement, même si son heure n'était pas encore venue de faire des miracles pour une raison que Jésus ne nous dit pas, Jésus a décidé de passer par-dessus cet irritant et faire plaisir à sa mère et aux invités en opérant son premier miracle. Ça, c'est une autre affaire. Vous voyez, il y a des évangiles apocryphes qu'on appelle où ce que Jésus, dans sa jeunesse, faisait beaucoup de miracles. Il destinait un oiseau à terre et l'oiseau se mettait à s'envoler, des choses extraordinaires comme ça. Mais la Bible dit ici que le premier miracle de Jésus, c'est au noce de Cana. C'était pas quand il était enfant, c'était pas quand il était ailleurs, c'était au noce de Cana qu'il a fait son premier miracle. Il nous arrive aussi qu'on nous demande des choses qui ne font pas partie de nos plans. Mais Jésus a fait preuve d'assez de flexibilité pour ajuster ses plans, même si cela ne faisait pas son affaire. Voilà donc un exemple à suivre pour nous. Marie nous donne, elle, une belle leçon de foi. Elle savait que Jésus n'avait pas les moyens financiers d'acheter de quoi boire pour la foule des invités. Elle n'avait jamais vu non plus Jésus faire de miracles encore. Mais elle avait cette conviction intérieure que Jésus pouvait faire quelque chose. Elle repassait dans son cœur tout ce qui avait entouré la naissance de Jésus et cela nourrissait sa foi, comme on peut lire dans Luc 2, 19. C'est pourquoi elle dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. De même, nous aussi nous pouvons exposer nos besoins à Jésus, pas à Marie. Demandons à Jésus avec la confiance que tout se passera comme sa parole puissante l'aura ordonné. Celui qui a créé l'univers par sa parole est bien capable d'avoir un impact encore aujourd'hui dans nos vies, juste en s'exprimant, juste en disant une parole. Le centenier romain l'avait compris en disant au Seigneur, dis un seul mot. Et Jésus a fait remarquer sa grande foi. Ça vaut à peine de lire ce passage dans Matthieu 8. Verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'abordant en le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va et il va, et à l'autre, viens et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous le déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Jésus n'a jamais pu dire à personne, qu'y a-t-il entre toi et moi? C'est la seule fois que quelqu'un est venu à Jésus et Jésus lui a répondu de cette façon. Si Jésus a répondu cette fois-là favorablement quand même à Marie, on peut aussi s'attendre à une réponse favorable pour nous quand on invoque son nom. Romains 10, 12. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, Marie a pu demander quelque chose à Jésus et Jésus lui a répondu, ben la même chose nous autres aussi. On peut demander quelque chose à Jésus et Jésus va nous répondre. Pas besoin de passer par Marie, pas besoin de passer par quelqu'un d'autre. On peut aller directement à Jésus et il va nous recevoir parce qu'il a dit qu'il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui.